Théophile Thoré, la dot. Ah, vous êtes peintre, monsieur. Je suis fort honoré de votre visite. J'aime à montrer mon Rembrandt à des connaisseurs comme vous. Ainsi parlait monsieur Bernard, un jeune homme qui venait d'entrer timidement dans le salon et qui regardait avec curiosité du côté d'une porte intérieure à demi ouverte, par laquelle on entrevoyait une femme assise dans la demi-teinte et occupée à broder. « Oui, monsieur, répondit l'artiste, quoique je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, j'ai pris la liberté de vous demander à contempler un tableau dont on dit des merveilles dans les ateliers. Oh, je le crois bien, ça en vaut la peine. Un tableau de 5 figures et dans la qualité de la fameuse Ronde de nuit qui est au musée d'Amsterdam. Je suis étonné que le gouvernement ne m'ait pas encore demandé de le vendre au Louvre. » Le petit vieillard, se levant, introduisit son visiteur dans un cabinet un peu obscur où la lumière était ménagée par des rideaux de couleur sombre. « Tenez-vous un peu à distance pour admirer d'abord l'effet général. N'est-ce pas que cette peinture réunit presque toutes les qualités des maîtres les plus célèbres ? La transparence des fonds, la limpidité de la lumière qui arrive par la fenêtre de gauche rappelle Peter de Hoogh, et la vieille femme assise semble peinte par Metsu, et le chien par Jean Fitte. Oh, je conviens que la jeune fille, agenouillée devant son père, est dorée comme une madeleine de Rubens, mais le caractère de Rembrandt est écrit comme une signature dans la belle tête du vieillard à barbe blanche. J'ai toujours cru que c'était le portrait du père de Rembrandt. On ne met pas tant de sentiments dans la physionomie, à moins d'aimer le personnage. Peut-être même est-ce une des scènes de famille où les petites figures sont aussi des portraits. On me dit que les costumes ne sont pas hollandais du XVIIe siècle. Mais vous savez les libertés que prennent les plus grands peintres comme le Véronèse et Rembrandt, surtout. Il n'a jamais été très scrupuleux sur la vérité historique. Enfin, c'est un Rembrandt incontestable et bien précieux, n'est-ce pas, monsieur ? L'artiste demeurait fort embarrassé devant cette faible peinture qu'un vrai connaisseur n'eût pas payé 10 louis. Que répondre à l'enthousiasme du propriétaire fanatique ? Heureusement, M. Bernard ne lui donna pas le temps d'exprimer son opinion. « J'ai toujours aimé les arts avec frénésie, » continua-t-il. « Mon père était voisin du père de David dans la rue Saint-Denis. Leur boutique était porte à porte. Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup connu le grand David, quoiqu'il fût plus âgé que moi, et c'est à lui que je dois mon goût pour la peinture. » Et pendant qu'il faisait les chefs-d'œuvre sous l'Empire, je faisais ma fortune dans le commerce et petit à petit, je plaçais mes bénéfices en acquisition de tableaux. J'avais réuni aussi une collection superbe, 3 Raphaëls, monsieur, et des échantillons de tous les grands maîtres. Mais à force d'acheter, j'ai été forcé de vendre tout. J'avais rencontré à mon commerce, renoncé à mon commerce, et mon avoir était en tableau, mais la jalousie des amateurs m'a ruiné. Mes toiles admirables ont été adjugées pour rien, et le mince produit des ventes ne m'a servi qu'à payer les frais de mes créanciers. Oh, c'est une grande fatalité, monsieur. Par bonheur, j'ai pu sauver Sœur Rembrandt, qu'un ami me perdrait en dépôt. Il ne me reste plus que cela. Mais c'est 60 000 francs. C'est la dot de ma fille. Pour moi, je vivrai modestement avec une petite rente viagère qui suffit à mes besoins. 60 000 francs. C'est encore au-dessus des dessous de la valeur d'un pareil chef-d'œuvre. Mais je ne veux pas vous faire attendre trop longtemps, sa chère Mathilde. Je me consentirai jamais à la marier sans assurer l'aisance de son avenir. 60 000 francs. Oh, il me faudrait qu'un Anglais. » Durant cette tirade, le peintre était revenu de son étonnement. Et comme il entrait dans ses intentions de se ménager la bienveillance du vieil amateur, il trouva le courage de louer convenablement le faux Rembrandt. La vérité est qu'André s'était introduit chez M. Bernard pour voir autre chose qu'une peinture. Ce tableau avait servi de prétexte. De son atelier, séparé seulement de la maison de M. Bernard par quelques jardins, il avait aperçu déjà une charmantaine de jeunes filles qui se retiraient toujours dans l'ombre quand le père lui-même paraissait à la fenêtre. Peut-être le peintre et la jeune fille avaient-ils échangé quelques signes d'intelligence. Il était amoureux, enfin, et il avait résolu de voir de plus près celle qu'il aimait. En repassant dans le salon, M. Bernard ne put s'empêcher d'appeler sa fille. « Voilà, s'écria-t-il, un vrai connaisseur, un artiste qui partage mon admiration pour notre trésor. Mathilde, ton père sera bien heureux quand il ne me faudrait qu'un Anglais. » La jeune fille salua en rougissant. Elle avait reconnu la barbe noire du voisin qu'elle remarquait si souvent, accoudée avec mélancolie sur la terrasse de l'atelier. André lui adressa quelques paroles entortillées, dont le père ne comprit pas le sens, et après avoir obtenu la faveur de voir le Rembrandt, il se retira plein de passion et d'espérance. Quelques mois après, le peintre était devenu l'ami de la maison. M. Bernard, enchanté d'une approbation si éclairée, le retenait des heures entières devant son tableau à lui conter ses rêveries. Rarement, toutefois, André et Mathilde ne pouvaient échanger l'expression réservée de leur amour. Le peintre avait bien déjà déclaré au vieillard ses intentions de mariage, mais M. Bernard ne voulait entendre parler de rien avant la réalisation de sa dot. Sa fille, élevée dans une demi-opulence, il ne voulait pas l'établir sans qu'elle apportât au ménage une fortune égale à celle du mari. Il savait d'ailleurs que M. André possédait de son côté une somme imposante placée sur le fonds de l'État. Et son opposition opiniâtre tenait donc uniquement à la vente du Rembrandt. Il eût été le plus heureux des hommes d'avoir pour gendre un artiste distingué et un si grand connaisseur. Un jour, quand André et Mathilde causaient ensemble de leur impatience mutuelle, le peintre se leva tout à coup, comme illuminé par une idée libératrice. « J'ai trouvé l'affaire » s'écria-t-il. « Mathilde, notre bonheur ne sera pas retardé longtemps. » Le lendemain, un monsieur se présente chez M. Bernard et fait remettre sa carte en demandant à être introduit. William Brighton lit rapidement M. Bernard et il s'empresse d'accueillir l'étranger. Voici l'anglais tant désiré. Un anglais pur sang, qui parle le français avec beaucoup d'embarras, et provient cependant à faire comprendre qu'il vient voir le Rembrandt. Lord Brighton possède à Londres une magnifique collection de tableaux. Il ne lui manque que le grand maître hollandais. Il n'a jamais pu jusqu'ici trouver un Rembrandt digne de figurer au milieu de ses chefs-d'œuvre. Il a entendu parler de l'intérieur de famille appartenant à M. Bernard. Voyons, on entre dans le sanctuaire. M. Bernard tire mystérieusement rideau et se retourne vers l'illustre armateur. « Oh !» fit l'anglais avec un geste d'admiration. « Combien, monsieur ? 60 000, répondit M. Bernard triomphalement. Oh, je donne 2 000 livres. Le vieux commerçant calcule vite que 2 000 livres sterling faisaient plus de 50 000 francs. Et il tendit la main au riche anglais. Mais ce ne fut pas sans douleur qu'il vit emporter son chef-d'œuvre. Le père, cependant, consola le maniaque. Mathilde allait enfin être mariée, grâce à cette petite fortune. Monsieur Bernard aurait la jouissance de vivre encore au sein des arts, dans l'atelier de son gendre. Le contrat fut dressé dans le salon de Monsieur Bernard, au milieu de quelques amis intimes. La fortune aborde 50 000 francs, et le futur une valeur égale. Tout est pour le mieux dans ces conditions d'égalité qui assurent l'avenir des deux conjoints. Après toutes les formalités légales, le père, rayonnant, prend André par le bras et lui demande seulement par curiosité si sa fortune est toujours en rente consolidée. « Oh oui, tout ce qu'il y a de plus solide, » répond André. « Vous ne pouvez qu'approuver le paiement de mes fonds. » Et en causant, il entraînait le vieillard vers une fenêtre donnant sur le jardin. « Tenez, » ajouta-t-il avec un éclat de joie, « voilà mes 50 000 francs. » Et il dirigea les yeux de son père vers la terrasse de l'atelier, éclairée par un beau soleil. « Mon Rembrandt !» s'écrie M. Bernard. En effet, le vieux Rembrandt s'étalait en pleine lumière sur un chevalet, placé juste en face du regard. My Lord Brighton est un peintre de mes amis. Il n'a jamais été à Londres. Il sera bien aise de faire votre connaissance sous son véritable nom. Vous verrez qu'il sait autre chose dire que « Oh, mais la dame de Mathilde !»« Eh bien, » dit gravement André, « vous lui donnez 50 000 francs, et moi, je lui apporte un tableau qui vaut bien davantage. N'est-ce pas votre opinion ? Rembrandt est-il perdu de sa valeur entre mes mains ? Il sera toujours temps de le revendre. Si les 50 000 francs et mon travail ne vise pas au bonheur de Mathilde. En attendant, je vous rends votre chef-d'œuvre. Nous allons le replacer dans votre cabinet d'élection. »